franceinter.fr.
La radiodiffusion française vous invite à écouter
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le témoin de ce vendredi, François Gibault, avec en arrière-fond Lucette, la veuve de Céline, et Louis Ferdinand.
J'ai promis d'être exemplaire, obéissant, courageux, attentif, sincère, reconnaissant, scrupuleux, de ne plus jamais mentir, ni voler surtout, de ne plus mettre les doigts dans mon nez, de revenir méconnaissable à un vrai modèle, d'engraisser, de savoir l'anglais, de ne pas oublier le français, d'écrire au moins tous les dimanches. J'ai promis tout ce qu'on a voulu pourvu qu'on me laisse tout de suite partir.
Arletty, François Gibault, n'a jamais été l'avocat d'Arletty, s'il est l'avocat de Lucette Destouches Céline. Au héros de mort à crédit, c'était un texte que lisait Arletty. Sa famille recommandait d'être bien obéissant. La formation de cavalier à Saumur de François Gibault lui a appris à aimer obéir, mais aussi à aimer commander. Ne pas engraisser, lui était-il dit au héros de mort à crédit. Gibault a toujours affûté et bougé son corps. La danse est une de ses passions et il aurait bien fait de l'acrobatie son destin. Ne pas oublier le français. Alors là, il n'y a pas de risque. François Gibault le pratique à la façon des moralistes d'autrefois. Il sait d'ailleurs que le style passablement monstrueux de Céline serait autrement mieux adapté que le sien au siècle que nous venons de vivre, le siècle du meurtre absolu. Mais c'est un conservateur. Et tout le contraire aussi, le genre à attendre l'aventure et à garder toujours une valise à portée de main, à marcher sur du parquet Versailles, mais après avoir décelé quelques larmes pour dissimuler peut-être un lot de grenades en dessous. Comment vous appelez François Gibault ? Monsieur ? Maître ?
Vous pourriez m'appeler François.
Oui, mais monsieur, vous aimez bien.
Monsieur, j'aime bien. C'est un très joli titre. Ça correspond à Madame. C'est le titre de la reine d'Angleterre. Quand on l'appelle Madame.
Je ne joue jamais ce jeu-là avec mes invités, mais si je vous demandais ce que vous voudriez être, vous répondriez la reine Victoria ?
Oh, la reine Victoria est un personnage fabuleux, oui. Elle a régné sur le monde. Ses enfants ont tous fait des mariages sensationnels, de telle manière qu'elle était la mère ou la grand-mère de toute l'Europe régnante. Hein. C'est vraiment une femme qui a été heureuse. En plus, je crois qu'elle avait un amant qui était son cocher.
Ah ! De temps en temps, vous publiez un livre, le dernier chez Gallimard, Libera Me, sous forme de notice, celui-ci. Il n'y a pas de V comme Victoria, il n'y a pas de M comme Maxime non plus, parce que le style à la française dont je parlais, qui vous caractérise, vous fait tendre souvent à la Maxime. La plus belle, c'est peut-être le prisonnier qui ne songe pas à se libérer. Ça n'est pas un homme.
Oui, c'est tout à fait mon opinion. L'homme qu'on enferme, c'est comme l'oiseau dans sa cage. Il n'a qu'une envie, c'est d'en sortir.
Grande famille bourgeoise, un immeuble que vous habitez toujours dans un beau quartier de Paris. Et puis, la première grande affaire de votre vie, je ne parle pas de celle que vous avez plaidée, mais de celle que vous avez vécue intimement, c'est sans doute l'Algérie. La guerre d'Algérie est restée une plaie ouverte pour vous.
Ah oui, c'est une plaie ouverte, comme tous ceux qui ont connu ces événements. On avait probablement autant de bonnes raisons d'être d'un côté que de l'autre, comme pratiquement dans toutes les guerres. Tout le monde est persuadé de son bon droit. Moi, j'étais partisan de l'Algérie française, bien entendu. J'ai été sous-lieutenant en Algérie, j'ai passé un an là-bas. J'ai ensuite vécu les événements d'Algérie comme avocat, puisque j'ai défendu deux garçons du FLN et un très grand nombre de personnes poursuivies dans le cadre de l'OAS.
Alors, une trentaine de civils poursuivis devant des juridictions d'exception ou bien de soldats perdus. Vous dites néanmoins, j'aurais pu défendre bien davantage de gens du FLN s'il y avait eu un pool d'avocats, avec Maître Vergès en particulier, constitué qui m'interdisait l'entrée du prétoire.
Oui, parce qu'ils avaient constitué ce qu'on appelait un collectif. Pour éviter des troubles à Fresnes, la division des gens du FLN étaient gérés par eux-mêmes. Il n'y avait pas de surveillance. C'était des gens du FLN qui surveillaient la division. D'ailleurs, c'est une division qui marchait comme sur des roulettes. Il n'y a jamais eu le moindre incident, le moindre problème. Mais quand un détenu arrivait le premier jour, on lui faisait désigner un avocat du collectif. Mais j'ai pu être commis d'office dans deux affaires avant la désignation d'un avocat du collectif.
Ça, ce sont les deux hommes du FLN. En revanche, les soldats perdus, les civils poursuivis devant les juridictions d'exception, vous en avez défendu une trentaine. Faisiez-vous partie du pool Tixier-Vignancourt, si le mot est adapté. Les juridictions d'exception vous ont laissé un souvenir cuisant.
J'ai été spécialiste de ces questions et j'en ai un souvenir très, très cuisant, oui, parce que ce n'était pas de la justice. Enfin, je pense, par exemple, à la cour qui a jugé notamment Bastien Thiry et les gens du Petit Clamart, j'en défendais un. Ça m'a permis d'assister à ce procès tout à fait historique, mais enfin dans lequel on avait bien l'impression que la cour avait son opinion faite et que les avocats n'avaient pas beaucoup de pouvoir.
Une cour militaire a succédé à un haut tribunal militaire qu'un général compagnon de la Libération avait été invité par le général de Gaulle à présider. Dans votre livre, Liberamé, chez Gallimard, oui. Il y a un article le général de l'Armina.
Le général de l'Armina, oui. Alors, le général de l'Armina avait fait une très très belle guerre. C'était un très très proche du général de Gaulle. Il l'admirait éperdument. Et de Gaulle lui a demandé de présider cette cour de justice qui devait notamment juger les auteurs de l'attentat du Petit Clamart. Puis il est allé voir le général de Gaulle et après un entretien seul à seul avec lui, le soir il est rentré chez lui, il s'est suicidé.
Interprétation de ce suicide à la radio sur Paris Inter le 1er juillet 1962 avec Jacqueline Baudrier qui parle d'une lettre ouverte, dit-elle.
Il nous faut revenir maintenant sur une triste nouvelle apprise hier, le suicide du général de corps d'armée de l'Armina.
Tous les anciens des forces françaises libres connaissaient bien le général, un homme sarcastique et plein d'humour que l'on considérait dans les états-majors comme l'officier le moins conformiste de toute l'armée. Récemment, le général qui souffrait de crise d'asthme et de malaise cardiaque avait dû être transporté d'urgence à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce.
Je vous rappelle d'ailleurs que c'est en raison de ce malaise cardiaque et de son hospitalisation que le général de l'Armina ne présida jamais la cour militaire de justice qui a condamné à mort l'ex-lieutenant de Gueldre. L'officier, président de l'Association des Français libres, avait toujours appuyé la politique du président de la République.
Et lorsqu'un certain nombre de ses collègues s'élevèrent contre celle-ci, il écrit dans une lettre ouverte « Je considère comme fâcheuse cette innovation parce qu'elle suppose une compétence particulière des officiers généraux en matière de politique générale, compétence que je leur refuse absolument. »
Alors les interprétations du suicide de l'Armina sont différentes, mais vous, vous citez une autre lettre où il dit « Je n'ai pas pu physiquement ni mentalement accomplir le devoir, celui de présider cette cour militaire, qui m'était tracé. Je m'inflige la peine de la mort, mais je tiens à ce qu'il soit dit que c'est ma faiblesse et non votre force ou votre lucidité. » Il s'adresse au général de Gaulle, qui en est la cause.
Oui, il a écrit « Je m'inflige la peine ». Moi, je considère que c'est la peine que le général de Gaulle lui avait demandé d'appliquer. C'est le suicide qui est un acte de liberté. Hein. C'est sa dernière liberté des gens de se suicider. Mais lui, il se suicide pour échapper au déshonneur.
Mais l'interprétation qui est donnée de ce suicide, il a appris qu'il était malade, peut-être atteint à terme de la maladie d'Alzheimer, ça ne tient pas pour vous?
Pour moi, ça ne tient pas. Il était peut-être malade, il était peut-être atteint de la maladie d'Alzheimer, mais il n'empêche que c'est après avoir vu le général de Gaulle qui se suicide et après lui avoir lu cette lettre qui est tout de même très explicite. Voilà.
Nous sommes en 1962, c'est une année extraordinaire pour vous, dites-vous.
Oui, il y a des hasards comme ça dans la vie, il y a des bonnes années, puis il y a des annus horribilis. Eh bien, 62 a été pour moi une année extraordinaire par les rencontres que j'ai faites pendant cette année-là. J'ai d'abord rencontré Bob Westhoff, le mari de Françoise Sagan, puis Françoise Sagan, presque en même temps Madame Céline. Puis à la fin de l'année, tout à fait, fin 62, je rencontre Jean Dubuffet, qui est un homme qui m'a considérablement marqué, dont je suis l'héritier, parce qu'on dit toujours que je défends l'œuvre de Céline, je défends aussi celle de Jean Dubuffet.
Dans ce moment, 1962, vous rencontrez, vous venez de le dire, Madame Céline, qui est veuve depuis un an. Ma femme écrivait « Céline est très amusante et pleine de jolies qualités. Il faut toujours épouser des filles de cirque quand on mène une vie de hasard. C'est dans un studio de danse qu'il l'avait rencontré. Lucette Destouches Céline, en 1962.
Je revenais d'Amérique, j'avais quitté la Péracomique. Et je m'entraînais chez un grand professeur de l'époque, Madame d'Alexandrie. Et tous les jours, j'allais faire 4 ou 5 heures d'entraînement, de leçons. Et comme il s'intéressait à la danse, il allait chez l'Alexandrie regarder les leçons, n'est-ce pas? C'est ainsi que je l'ai connu, petit à petit. Il était grand, il était très beau, mince. La silhouette était très belle, c'est-à-dire il avait une allure de souplesse. Ses gestes étaient gracieux et moi je suis très impressionnée par les mouvements. Il était très lointain, il avait quelque chose de mystérieux. Il était triste, songeur. Et tout était dans l'expression de ses yeux. J'ai été très impressionnée par son personnage. J'étais assez sauvage, donc moi je parlais pas. Il n'y a pas de problème. Je ne disais rien, j'écoutais. C'était pas la peine de parler avec lui.
Il parlait beaucoup?
Oui, il parlait, il se laissait aller. C'est-à-dire, c'était pas, il n'attendait pas de réponse. Alors nous entendions très bien. Comme moi, je suis pour le geste et je n'ai pas besoin de parler. Ça me suffisait, c'était parfait pour moi. Et c'est ce qu'il demandait.
Une émission de Yannick Bellon. C'est un personnage qu'on n'imagine pas. Madame J'en Céline crois. Est toujours vivante, elle a 101 ans, elle est encore alerte. Et elle était d'une curiosité que vous partagiez. Vous avez voyagé oui. partout avec elle.
Oui, je viens d'entendre sa voix avec beaucoup d'émotion. C'est une voix tout en grâce, tout en finesse, tout en distinction. C'est très joli ce que nous venons d'entendre. Et elle parle de Céline magnifiquement. Personne ne peut en parler mieux. C'était une femme très belle, très sportive, évidemment. Moi, je l'étais aussi, ça tombait bien. Nous partagions cette passion de la danse. Et puis, il y avait une autre chose que nous aimions tous les deux, c'était l'eau glacée, nous jeter dans l'eau glacée. Alors, il y avait une piscine, elle avait mis une espèce de piscine en plastique. Tous les hivers, on cassait la glace, on allait nager. Nous avions beaucoup de quantités de goûts communs.
Vous avez fait aussi un voyage sur le Nil, ça c'est pas l'eau glacée. Et vos voyages pouvaient vous emmener dans des lieux très proches, mais pour vous très étranges. Mai 68, l'Odéon occupé. Avec Madame
oui,
Céline
avec
sous
Madame
le bras.
Céline, oui, nous sommes allés là-bas. Et nous avons été reçus à l'Odéon, là, quand on nous avait arrivés. Moi j'avais une cravate comme tous les jours. Et alors ils ont tous crié, les bourgeois avec nous, et puis on a dégagé des places au premier rang. On a passé une soirée formidable.
Et on passait des soirées formidables, notamment le dimanche, dans la maison de Meudon, qui était comme un aimant qui attirait des gens extrêmement différents.
Oui, il y avait un petit groupe d'indécrottables, et puis il y avait toute une série de gens qui venaient des extérieurs. On a eu pendant des mois et des mois Mouloudji, juste avant sa mort, qui venait tous les dimanches. On a reçu Carla Bruni qui est venue un soir, une soirée mémorable. Je me souviens de Jacques Vergès, je me souviens de Patrick Besson, des quantités de gens.
Il y a aussi un article A comme Aznavour.
Il y a eu Aznavour.
Alors il y a un article Aznavour à la lettre A et à la lettre M.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bonnes gens, écoutez la triste ritournelle des amants errants en proie à leur tourment. Parce qu'ils ont aimé des femmes infidèles qui les ont trompés ignominieusement. Méfiez-vous, femmes cruelles, qu'on vous en fasse tout autant. La douleur n'est pas éternelle, même chez le meilleur des amants. Vaincus par vos propres armes, vous connaîtrez à votre tour et le désespoir et les larmes de la jalousie et de l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Cœur pour cœur, dent pour dent.
Vieux Mouloudji, 1951, l'un de ses premiers succès à l'époque, Céline, était en exil Mouloudji et devenu un des habitués de la maison de Céline, dont notre invité François Gibault, qui publie Libérame chez Gallimard, était aussi l'hôte habituel, notamment le dimanche soir. Cette maison, elle a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ?
Oui, alors elle a été inscrite à l'inventaire par le ministre, mais il fallait que le préfet prenne un arrêté, et le préfet n'aimait pas Céline, il n'a jamais pris l'arrêté. Donc la maison a été en quelque sorte classée, puis déclassée, ce qui est très amusant parce que c'est parfaitement célinien. Vous savez qu'il a eu le prix Goncourt, et puis une semaine après, le jour de l'attribution du prix, il ne l'avait plus. Il a été aussi dans l'annuaire des célébrations nationales pour son 50, le cinquantenaire de sa mort, et puis le ministre a décidé qu'il n'en faisait plus partie. Enfin, c'est tout à fait célinien comme événement.
Vous avez publié la biographie de Céline, une des premières grandes biographies de Céline, chez Gallimard Mercure de France, il y a déjà pas mal de temps. Et vous disiez ceci, quand on entreprend une biographie, on a tendance à retenir les aspects de la vie que l'on étudie en fonction de sa propre personnalité.
Oui, ça c'est un risque, ça c'est sûr. Moi j'ai travaillé 15 ans sur cette biographie. D'ailleurs j'ai publié les trois tomes à 3-4 ans d'intervalle. Mais effectivement, quand vous vous attachez à un homme, vous vivez avec un personnage que vous suivez à la trace, vous avez tendance à vous intéresser tout particulièrement aux points communs que vous avez avec lui. Hein. Alors moi, par exemple, moi je suis un bourgeois, mais je suis un anarchiste. Enfin, je suis autant l'un que l'autre. Et Céline était aussi. Hein, c'était exactement la même chose. C'est quand c'était un bourgeois et un anarchiste qui détestait le désordre. Hein. Dès qu'il y avait du désordre, il appelait le commissaire de police. Hein. Donc c'était un anarchiste, disons, de droite, si on veut. Enfin, c'était aussi un grand sentimental, un grand sensible, hein, qui avait rejeté tout ça parce qu'il savait que les sentimentaux souffrent plus que les autres. Alors il avait refoulé ça, et puis il avait un visage haineux. Alors regardez-moi, moi j'ai une tête de gardien de prison, et je suis pourtant un grand sentimental.
Alors, vous parliez de l'identification du biographe à son modèle. Il n'y a aucune identification possible entre vous deux en matière d'antisémitisme. En revanche, l'antichristianisme. Céline disait « L'Église, c'est la maquerelle criminelle ». De temps en temps, dans Libérame, malgré le titre du livre, on voit apparaître des pointes très agressives.
Oui, je ne suis pas, c'est pas de l'anti-catholicisme. Moi, je suis catholique, peu pratiquant, mais enfin, quand même, je suis catholique, je crois en Dieu. C'est l'Église que je critique. Hein. C'est l'Église qui refuse d'évoluer avec son temps. On le voit pour le mariage des prêtres, on le voit pour le fait que les femmes n'ont toujours pas le droit de dire la messe. Pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi. Elles sont enfants de Dieu comme les hommes, exactement la même chose. Alors on me dirait c'est parce qu'il y avait que des hommes autour du Christ le jour de la scène. Oui, ça c'est vrai, mais enfin tout de même, on pourrait peut-être changer un peu, évoluer. Et j'ai pas aimé du tout le dernier pape. Alors le pape François, là, qui porte mon prénom, je crois qu'il va faire bouger les choses, et je l'espère, parce qu'il faut que l'Église évolue et qu'elle s'adapte au temps moderne.
Ah donc vous êtes réactionnaire et tout le contraire ?
Ben oui, c'est exactement ça. Je suis pétri de contradictions.
Alors, l'habitude, après qu'on a évoqué très brièvement l'antisémitisme de Céline, un peu plus son antichristianisme, c'est de parler de son écriture. C'est toujours comme ça qu'on fait. Vous avez remarqué, Philippe Muret disait que tous les livres sur Céline étaient construits ainsi, d'ailleurs.
Ah oui, alors l'écriture de Céline est évidemment très particulière. Il a inventé un style. Il en était d'ailleurs fier. Il disait que il y avait un ou deux écrivains par siècle qui inventaient un style, et il est incontestable que Céline a révolutionné le style de la langue française. Bon, quand on lit les romans qui s'écrivaient à l'époque de Voyage au bout de la nuit, évidemment, on voit que finalement, la plupart sont oubliés, et que l'un de ceux qui subsistent, et avec une force extraordinaire et une actualité extraordinaire, c'est Voyage au bout de la nuit. Alors il a cassé le style, il a voulu faire de l'émotif, hein, de l'émotif rendu, c'est ce qu'il disait. Et il a pensé qu'on ne pouvait plus écrire à l'époque du cinéma, à l'époque de la guerre de 14, à l'époque des atrocités qu'il a connues de près, puisqu'il a été Il était ancien combattant de la Grande Guerre et grand blessé de guerre. On ne pouvait plus écrire de la même manière. Voilà. D'abord, il disait que le cinéma avait tué cette forme de littérature.
Grande actrice de cinéma, et pas seulement, qui lit un extrait de Mort à crédit, c'est Arletty. Ça vous agace peut-être que...
Pas du tout, j'aimais beaucoup Arletty. J'aimais bien Arletty parce que je l'ai connue longtemps. J'allais la voir quand personne n'allait plus la voir, quand elle était un peu oubliée, quand elle était vraiment complètement aveugle et complètement fauchée. Mais alors, je dis seulement dans le livre qu'elle n'était pas très bonne, en ce sens qu'à peine avait-on franchi la porte qu'elle téléphonait à gauche, à droite pour dire... Oh,
surtout à droite, d'ailleurs.
Oui, plutôt à droite, d'ailleurs, oui. Pour dire, ah ben tiens, j'ai vu François Gibault, j'y allais quelquefois tout seul, quelquefois avec Lucette Destouches, avec Lucette Céline, et je sais qu'elle disait du mal de nous. Mais enfin, ça, c'était dans sa nature.
Elle disait n'importe quoi parfois, mais elle ne disait pas n'importe comment.
Le chagrin est venu quand même d'une façon pire que j'aurais cru au moment de partir. C'est difficile de s'empêcher. Quand on s'est trouvés tous les trois sur le quai à la gare du Nord, on n'emmenait pas large. On se retenait par les vêtements, on essayait de rester ensemble. Dès qu'on était dans la foule, on devenait timide, furtif. Même mon père, qui gueulait si fort au passage dehors, il perdait là tous ses moyens. Il se ratatinait. C'est à la maison seulement qu'il remuait la foudre et les tonnerres. À l'extérieur, il rougissait, qu'on le remarque. Il regardait à la dérobée. C'était une audace singulière qu'on m'envoie si loin. Tout seul, comme ça. On avait la trouille subitement. Ma mère, qui était la plus héroïque, elle a cherché des personnes qui s'en allaient de mon côté. Personne connaissait Rochester. Je suis montée retenir ma place. On m'a recommandé encore toutes les choses indispensables. La prudence la plus extrême, de ne pas descendre avant l'arrêt, de jamais traverser la voie, de regarder de tous les côtés, de ne pas jouer avec la portière, de redouter les vents coulis, de rien attraper dans les yeux, de me méfier aussi du filet des bagages, que ça vous assomme dans les tamponnements. Il a fallu dans tout le boucan que je récite encore une fois tout ce qu'on m'avait forcé d'apprendre, tout ce qu'on me sorinait depuis 8 jours.
Arletty, dans une émission, tendrait assez haut, enfin, partir si loin, à Rochester, en Angleterre. Vous, vous êtes prêt à partir toujours très loin? La valise est toujours ouverte.
Moi, j'aime bien ça. Oui. J'ai beaucoup, beaucoup bourlingué. J'aimais bien partir... J'aime l'aventure, voilà. J'aime sortir de mon milieu, de mon monde, si vous voulez. Et ce qui m'a permis, on le voit, je pense, dans ce livre, de rencontrer des gens absolument différents, de toutes opinions et de toute classe sociale.
Vous êtes un peu caméléon ?
Je ne suis pas tellement souvent changé d'opinion. Hein. Quand j'ai des convictions, je m'y tiens. Le mot caméléon ne me plaît pas tellement. Mais oui, c'est vrai, je suis un peu frégoli, si vous voulez. Alors oui. J'aurais aimé finalement changer de profession, ça c'est très bien. On devrait changer de profession tous les 10 ans. De monde, changer de pays.
Vous auriez été quoi, acrobate mondain ?
Ah, j'aurais beaucoup aimé être acrobate tout court. J'aurais aimé faire du cirque, voilà, ça m'aurait beaucoup plu. J'aurais aimé être danseur aussi, voilà. J'avais des dons physiques assez exceptionnels. Spectacle.
Mais qu'on peut exercer au prétoire, ces dons ?
J'ai exercé mes talents dans les gymnases et dans les prétoires, voilà. C'est mon côté exhibitionniste.
Vous avez été l'avocat de Lucette, vous êtes toujours l'avocat.
Je suis toujours l'avocat de Lucette,
Céline.
Alors, j'ai deux casquettes parce que je suis son avocat et je défends l'œuvre de Céline. Elle m'a pratiquement donné une sorte de délégation, de telle manière que depuis des années, je travaille avec Gallimard et je défends l'œuvre.
C'est ainsi que quand on vend le manuscrit du voyage au bout de la nuit, vous êtes présent, c'était en 2001, ici, Nicolas Stoufflet, au petit matin sur France Inter.
Le manuscrit du Voyage au bout de la nuit de Céline, adjugé 11 millions de francs aux enchères hier à Paris. 11 millions de francs, ça nous fait plus de 12 millions de francs avec les frais. Et c'est la Bibliothèque nationale de France qui l'a décroché par préemption. Elle explique que cette acquisition a été rendue possible grâce à la générosité d'un mécène, en l'occurrence la veuve d'un milliardaire saoudien.
Numéro 29, le Voyage au bout de la nuit, manuscrit autographe original, seul manuscrit.
11 millions, l'enchère n'est plus à droite, pas au fond ni debout. Ordonnance à 11 millions. Adjugé 11 millions.
Alors, il y aurait un truc qui était marrant aussi, c'était dans le manuscrit, il manquait des pages. Alors il les a refaites. Il dit, mais ça va se voir. Alors on les a maquillés, on a écrasé des camemberts dessus, on a balancé du pinard, de tout, sur des feuilles tout à fait disparates. Parce qu'il avait, en effet, son manuscrit était assez marrant, c'était même écrit sur des menus de restaurant. Il a vendu son manuscrit à un marchand de tableaux de la rue de la Boétie, pour 600 sacs à l'époque, c'était de l'oseille. Enfin, voilà l'histoire du manuscrit, du voyage. C'était le dernier voyage du manuscrit.
La vérité sur le manuscrit du voyage, acheté à prix d'or, grâce au mécénat de la veuve d'un milliardaire saoudien. C'est Popol qui parle.
Oui, c'est Jean Paul que j'ai bien connu. Alors,
Jean Paul, c'est un exact contemporain de Céline.
Ah oui, absolument, un grand blessé de la guerre.
Vous alliez voir Jean Paul.
Oui, j'allais voir Jean Paul, qui est même un grand témoin et un personnage très haut en couleur. Alors d'ailleurs, là, il en rajoute un peu quand il dit que Céline, on a vieilli les pages avec du fromage. C'est pas tout à fait exact. Il est vrai que quand Céline a voulu vendre son manuscrit à Bignou, il manquait quelques pages du manuscrit du Voyage au bout de la nuit. Alors il a proposé à Bignou de les réécrire. Donc il les a réécrits. C'était pendant la guerre. Il y avait un manque de papier. D'ailleurs, il avait utilisé des papiers de récupération au dos de certains autres écrits. Et il a complété, il y avait, je sais pas, une dizaine, quinzaine de pages peut-être, voilà. Enfin, je les ai eues entre les mains et je doute que Céline les ait vieillies avec de l'huile, du roquefort, etc. Ça, je ne crois pas.
À l'article Jean Paul, à G, à l'article Audiard, à A, vous dites, voilà des personnages qui sont un peu dans l'orbite célinienne l'un et l'autre de manière différente, qui utilise volontairement l'argot ou une langue qui leur est propre, il joue avec ces langues-là.
Oui, parce que on a toujours considéré, beaucoup de gens considèrent que le langage de Céline, ce style si particulier, est un langage vulgaire, n'est-ce pas, un langage populaire. Pour moi, c'est pas vrai du tout. Céline est un styliste. J'ai travaillé, Madame Destouches m'a demandé de mettre au net le dernier manuscrit de Céline, son roman posthume, Rigaudon, et j'ai vu le travail du styliste, justement. Des gens disent, oh ben oui, c'est des romans dictés, n'est-ce pas ? Pas du tout. En revanche, ce sont des textes qui sont admirables à dire. On a entendu Arletty tout à l'heure, ce sont des textes qui sont extrêmement musicaux. Il y a une musique de Céline, il y a un rythme, il y a une poésie qui en font des textes pour acteurs. Michel Simon a lu Céline, très bien. Arletty, donc, on vient de l'entendre à la perfection. Et je ne peux pas ne pas citer Lucchini.
Et votre langue, à vous, ne vous paraît pas, au contact de celle de Céline, comment dire, je ne veux pas être blessant, François Gibault, démodée?
Eh ben moi, oui, c'est-à-dire que je me suis méfié. Quand on travaille sur Céline, quand on a écrit sur Céline, il ne faut surtout pas faire du Céline. Il n'y a pas une fois trois points dans mon livre. Ça, c'est volontaire.
Enfin, il vous arrive, dernière question, elle concerne une de vos devises, d'utiliser la langue populaire. L'une de vos devises serait VVCP.
Ah oui, là, c'est une plaisanterie. VVCP, ça veut dire
quoi ?
Ventre vide, couille pleine. Pour moi, c'est l'état idéal. C'est-à-dire que quand vous avez le ventre vide, vous êtes très présent. Quand vous avez le ventre plein, vous avez sommeil, vous devenez graveleux et vulgaire. Et les couilles, c'est pareil. L'homme qui a les couilles vides, il vient de faire l'amour, là aussi, il est bon pour dormir. Donc moi, toujours, quand j'ai plaidé mes grandes affaires, quand j'ai été amené à faire des discours, à prendre des positions publiques, et bien toujours, 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 j'étais dans cet état, VVCP.
Merci à vous, on va finir avec un peu de latin et rappeler le titre de votre livre, Libera, mais c'est aux éditions Gallimard. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Elinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Alivard et à la technique, Florent Layani.